le mot lui-même, robot, intègre donc les lettres RBT comme Arbeit en allemand, donc la notion de travail, donc l'esclave mécanique. Donc le robot en tant qu'esclave mécanique, en tant qu'aide fonctionnelle, donc ça nous parle beaucoup et on y travaille. Do you want to start?
Pour contacter l'émission en direct, notre site internet impatience.rsr.ch ou par SMS au 939 en commençant votre message par science.
Hello, do you want to start?
Go.
I don't know. Tell me those cups when you are ready.
Go.
Lucille Solari, à quoi ressemble cet esclave domestique Harry?
Écoutez, franchement, en fait, à pas grand-chose. Enfin, j'ai envie de dire que l'image... Non, mais c'est vrai, l'image qui me vient, que je trouve la plus parlante, ce serait, vous savez, ces chariots qu'utilisent les techniciens de surface, avec deux roues, un chariot, etc. Ben voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Mais un chariot bourré d'électronique, muni d'un bras articulé avec une pince en guise de main, et puis équipé d'une caméra qui lui sert évidemment d'œil. Alors, vous voyez, sa plastique, ben, elle est plutôt ingrate. Ça ne l'a pas empêché de se placer en quatrième position de la dernière édition de la Robocop qui s'est déroulée à Atlanta en juillet de cette année.
Et la Robocop, c'est, on peut dire comme ça, c'est le mondial des robots où les robots jouent véritablement au foot.
Absolument, c'est une des catégories de la compétition, hein, la Robocop Soccer, c'est-à-dire c'est la plus célèbre puisque c'est comme ça qu'a démarré cette compétition en 98. Il s'agissait de faire jouer des robots au foot et puis d'ici 2050, on espère voir ces robots battre l'équipe de foot championne du monde. Voilà, l'espoir fait vivre.
Un vrai mondial.
L'espoir fait vivre. Mais Harry, lui, se distingue dans une autre catégorie de la Robocop qui est réservée aux robots domestiques. En fait, il s'agit chaque année pour des ingénieurs en robotique du monde entier de mesurer les connaissances et le développement des robots domestiques, c'est-à-dire des robots qui seront capables demain de vous assister dans vos activités domestiques, justement, et de le faire de manière intelligente. Alors, c'est la grande idée qui a présidé à la création et au développement de Harry, dont le papa, Jean-Daniel de Simon, responsable du LARA, le laboratoire de robotique et automatisation de la haute école d'ingénieurs du canton de Vaud, n'est pas peu fier. Il n'est pas peu fier de son bébé. Voilà. Alors pour rendre compte des compétences de Harry, eh bien Jean-Daniel de Simo m'a d'abord convié à regarder une vidéo des exploits de Harry.
Et sur cette vidéo, on voit notre robot Harry, pas très beau, on le sait, et assez gauche.
Il est même assez gauche, ça rendait un peu furieux Jean-Daniel de Simo lorsque je lui faisais remarquer. Alors ça se passe, donc on voit cette vidéo, ça se passe à Atlanta, on est pendant la compétition, on voit essentiellement des pieds et des jambes d'humains, puis autour du petit robot et on voit donc ces jambes d'humains autour du petit robot, et ce robot soulève et pousse des petites boîtes, un peu genre Tupperware, posées au sol. Commentaire Jean-Daniel de Simo.
Ok, alors tout au début... Voilà. Donc, dans ce test, ce que l'on veut, c'est que le robot imite le mouvement humain. Alors, on a là des petits, comment vous les appelleriez pour la cuisine, là, des petits conteneurs hein, en plastique, blanc, bleu. Et on voit que l'homme, dans le cas particulier, c'est le professeur Azada, Minoru Azada, qui est le président de Robocop. Donc, en ce moment, il a choisi de déplacer vers l'avant son conteneur bleu. Alors, il hésite. Voilà, il a choisi de déplacer le conteneur là qui est tout à droite. C'est lui qui décide donc des mouvements et maintenant donne le contrôle au robot grâce à ce petit cube orange. Et donc, le robot analyse la situation, constate que le professeur Azada a déplacé ce conteneur. Donc, lui, à son tour, se déplace de façon à avancer le conteneur. Et là, si on veut faire vite, eh bien, on peut déjà dire que les quatre mouvements seront faits correctement et dans le temps dévolu à cette tâche à Atlanta. Donc, pour le cas particulier... le test est réussi et donc un maximum de points pour ce test-là est acquis à l'équipe. La séquence de mouvements à faire, elle est enseignée au robot rien qu'en le faisant. On n'a pas besoin de lui décrire, même sous forme parlée, ce qu'il doit faire. On fait l'action et lui la réplique.
Donc vous avez programmé Harry de manière à ce qu'il soit capable d'apprendre. Ça veut dire qu'il a ce qu'on appelle des capacités cognitives.
Voilà, absolument. C'est tout à fait central. Et là, pour faire ce test de façon impartiale, si on veut, bah, précisément, c'est M. Azada qui est le président de la Ligue RoboCup. Je crois qu'on peut lui faire confiance. Donc, l'équipe n'a aucune idée avant d'arriver à Atlanta, même de à quoi va ressembler la cuisine, qui va venir, on ne savait pas non plus que ce serait M. Azada, et quelle est la séquence de mouvements qu'il choisirait, tout ça c'est totalement improvisé à ce moment-là. Et donc le robot doit faire avec, doit donc comprendre ce qui se passe, puis à son tour faire l'action. Voilà. Alors évidemment c'est élémentaire dans le sens où on n'a pas encore des robots dans nos cuisines pour nous aider à faire des plats, mais on est quand même très proche par rapport aux travaux précédents, on est très proche maintenant dans la mesure où on est dans une cuisine, on a des ustensiles de cuisine, on a des mouvements non prédéfinis qui sont exécutés, qui sont, on a vu avec succès, reconnus puis imités. En 1998, le petit robot du Jet Propulsion Laboratory, le Sojournaire, qui a atterri sur la planète Mars. Donc les gens se disent, bon, c'est vrai, un robot, ça peut se déplacer, même avec 10 moteurs, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. De notre côté, on avait justement Deep Blue qui avait battu Kasparov aux échecs. Donc on se dit, du côté de l'intelligence artificielle, il semble qu'on puisse maintenant faire des choses. Donc ce qu'on aimerait, c'est faire une ligue dans laquelle on va marier les deux choses, enfin, mettre à la fois l'intelligence et le déplacement comme on sait le faire. Et avec ça, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Alors, on se donne du temps. En fait, à l'époque, on se donnait 50 ans. Mais l'objectif, c'était d'avoir un système qui ait de l'initiative individuelle, mais qui soit un petit peu coopératif dans sa façon de fonctionner, qui soit un peu rapide, qui puisse aussi avoir une certaine force. Et on s'est dit, voilà, là, on a décrit le joueur de fat. Donc, le premier objectif en 98 a été de dire on va faire un robot footballeur capable de battre la meilleure équipe humaine, et si en 2050. Alors, dans un deuxième mouvement, plus récemment, en fait, un peu plus de deux ans, on s'est dit on aimerait quand même faire quelque chose d'utile, pas du jeu, pas du fat, et puis on voudrait aussi quelque chose d'un peu plus vite que dans 50 ans. C'est clair que si on veut avancer avec nos recherches, avoir des financements, aller expliquer à quelqu'un, oui, ça va marcher en 2050, disons, ça va pas aider pour être financé. Donc, but à plus court terme et plus appliqué. Et là, on s'est dit, voilà, avec le vieillissement de la population, déjà aujourd'hui, des gens qui sont un peu handicapés, ce serait bien d'avoir une aide domestique. Donc, pourquoi pas faire un robot qui soit coopératif, donc qui puisse aider à la maison. Alors, une conclusion que j'ai parfois fait, mais qui m'est personnelle et qui est un peu provocatrice, disons, c'est que, de toute façon, les deux choses sont très proches dans le sens que ce serait très utile d'avoir chez nous, pour l'aide domestique, un joueur de l'équipe mondiale de foot pour déplacer les marchandises du coffre de la voiture au frigo, pour aller chercher la télécommande qu'on a oubliée au salon. Et donc, finalement, ce n'est pas si antagoniste que ça. Mais enfin, il y a d'abord cet aspect quand même d'être appliqué à relativement court terme. Et c'est pour ça que quand vous regardez Harry, justement, vous le trouvez peut-être moins sexy qu'un joueur de foot, c'est vrai.
Nettement, pour l'instant voilà, en tout cas.
Voilà. Mais l'objectif est d'être utile à la maison et donc de pouvoir aider une personne qui a mobilité réduite. Mais en fait, Tanita, qui est aussi l'une des stagiaires, elle posait la question de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le cas de quelqu'un de sourd, par exemple. Enfin, il n'y a pas que les facultés motrices qui peuvent être réduites. Et donc, dans quel cas un tel robot d'aide domestique pourrait être utile? Et donc, c'est quelque chose qu'on va aussi en partie prendre en compte.
Est-ce que vous avez des objectifs très précis avec Harry en termes de développement maintenant, justement dans cette perspective d'aide domestique? Est-ce que vous êtes fixé des objectifs, des buts, des tâches que Harry, d'ici un certain nombre de semaines, de mois, d'années, devra être capable d'accomplir?
Alors, on a cette discussion chaque année. Je fais partie du comité d'organisation maintenant de la Ligue RoboCup at Home. Donc, à ce titre, je suis dans le cercle des gens aussi qui discutent des règles pour l'étape suivante. Et actuellement, la controverse est assez forte à l'intérieur du groupe entre ceux qui souhaitent des choses vraiment très compliquées et d'autres qui plaident pour un peu consolider ce qu'on a déjà partiellement fait à Atlanta. Mais parmi les idées du règlement actuel, c'est d'avoir un robot qui aide à faire la cuisine. Donc, contribuer à, je sais pas, faire une sauce, etc. C'est encore en discussion. Hein, donc, mais une autre demande, alors que l'année passée, il s'agissait dans une première phase de suivre une personne, puis dans la deuxième phase de la guider sur le trajet qui venait d'être appris. Hein, donc, considérant que cette étape est franchie, ce qui est demandé pour l'année prochaine en Chine, ce serait dans tous les cas d'avoir le robot qui démarre à l'extérieur du logement. Donc, tous les robots sont à l'extérieur et quand c'est à leur tour de faire quelque chose, eh bien, c'est à eux de trouver l'entrée, j'entends, d'aller, par exemple, prendre quelque chose à la cuisine ou que sais-je. Donc, on cherche aussi, certains plaident aussi pour avoir des tâches plus intégrées ou en fait en même temps beaucoup de choses, c'est-à-dire la même tâche exige qu'on trouve l'objet sans savoir précisément où il est, qu'on puisse le soulever, le transporter, ensuite peut-être expliquer à une personne qu'il faudrait reconnaître parmi plusieurs où le déposer. La tendance qu'on a eue les deux premières années, je pense qu'il est un complément indispensable, même si c'est qu'une partie des choses, c'est quand même de faire des tests plus analytiques.
Impatience. Lucille Solari.
Retour à Harry qui va être très utile au niveau domestique et qui deviendrait intelligent, presque humain.
Alors, jusqu'il n'y a pas très longtemps, on va dire, les robots, on les programmait pour qu'ils accomplissent un certain nombre de tâches, on est d'accord. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On va beaucoup plus loin puisque l'idée, c'est de les programmer de façon à ce qu'ils apprennent au cours de leur vie, finalement, à faire des choses en regardant les humains. C'est-à-dire qu'ils ont des facultés cognitives. S'ils ont des facultés cognitives, évidemment, ça les rapproche de l'humain. J'ai donc demandé à Jean-Daniel de Simou si l'objectif des ingénieurs en robotique n'était pas aujourd'hui précisément d'humaniser les robots.
Alors, c'est vrai que, j'avais parlé d'un premier aspect lié plus à la cognition. Le deuxième aspect, c'est le côté système. Et donc, un robot est un système assez complexe où il n'y a pas seulement de choses. Donc, les gens qui travaillent seulement au niveau du déplacement, de la locomotion, eux seront relativement peu sensibles à savoir si on reconnaît la parole ou non. Et par contre, ils vont faire un système capable de se déplacer latéralement, passer des seuils ou des petits obstacles avec rapidité et sûreté. Donc, voilà, ça, c'est les gens du déplacement. D'autres se spécialiseront peut-être au niveau des mains. Comment prendre des objets, même de formes très variées. D'autres encore plaident justement pour la reconnaissance de la parole et rien d'autre. D'autres travaillent sur la vision. Donc le défi ici, je pense, au niveau de la ressemblance de l'homme, enfin en ce qui nous concerne, est plus lié aux aspects cognitifs. Mais ça nous est propre. Il y a aussi une demande dans le cadre de cette ligue qui va dans le sens de faire de beaux robots, des robots sympathiques. Donc là, il faudrait qu'on travaille sans doute avec d'autres collègues pour que le look soit sympathique. Donc on n'a pas été sensible à cet aspect des choses jusqu'ici, disons. Mais à partir du moment où dans le règlement on le fait apparaître, si il est important pour que le système soit accepté par l'utilisateur, par exemple que la personne handicapée soit à l'aise avec s'il faut un peu humaniser le look du robot, ben il va falloir au niveau du système intégrer des contributions faites par les spécialistes de ces choses. On a un mot spécialisé pour ça, c'est l'android, évidemment. On travaille pas ici à faire des androïdes. On n'est pas spécialisé dans ce domaine. Entre l'androïde, donc, qui a vraiment le look de l'homme, et le robot qui assure seulement la fonction, entre deux, à mi-chemin peut-être, il y a l'humanoïde dans le jargon, qui est quelque chose qui a une forme humaine. On voit clairement encore que c'est métallique et autre, ou plastique ou que sais-je. On voit clairement que c'est pas un homme, mais il y a déjà vraiment deux bras, deux jambes. Et là, il peut y avoir un intérêt à faire ça, peut-être, si on veut que, Si on veut demander au robot, par exemple, qu'il recule la voiture à notre place, qu'il la sorte ou qu'il la gare, qu'il la mette au parking, il va falloir effectivement qu'il puisse, ce robot, atteindre les pédales, tenir le volant, changer les vitesses. Donc, qu'il ait la forme humaine dans ce sens-là, ça devient aussi une nécessité fonctionnelle. Maintenant, si notre objectif, c'est d'être utile à la maison, pour les personnes, alors l'humanoïde aujourd'hui n'est pas la bonne solution parce que c'est peu stable. Donc ça tombe facilement, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'articulations, donc ce sont des objets délicats. Le coût va être forcément élevé. Donc, voilà. Encore une fois, ici on est guidé plutôt par la fonction et donc les objectifs, les tâches à réaliser. Maintenant, la partie cognitive, par exemple tout à l'heure de reconnaître un mouvement, c'est tout autant nécessaire pour un humanoïde que pour un système sur roue. Vous voyez, ces fonctions sont très différentes et sont toutes nécessaires pour certaines tâches. Et donc, si on est très bon en termes, par exemple, de reconnaissance des mouvements faits par l'homme, ça va être utile ensuite pour différents systèmes de déplacement. Donc, dans ce sens, quand vous regardez la tâche accomplie, le système complet, c'est plus si important de savoir si on a deux jambes ou trois.
Hello, do you want to start?
Harry peut apprendre, notamment des mouvements. Est-ce que ça veut dire qu'il est intelligent?
Alors oui, d'après les définitions qu'on propose, oui. Mais mon oui va dans deux directions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres systèmes qui sont intelligents. Il y a beaucoup de systèmes qui apprennent. Par exemple, un mécanisme qui est très courant aujourd'hui, permettant d'apprendre aux ordinateurs, c'est d'avoir ce que les spécialistes appellent la mémoire cache. Donc, c'est l'idée d'avoir un stockage temporaire. Lorsqu'on accède plusieurs fois à la même information, la deuxième fois, les fois suivantes, ça va plus vite que la première fois. Donc, dans ce sens, les performances s'améliorent avec le temps, donc le système apprend, donc le système intelligent. Ça, c'est parmi les définitions que l'on a proposées. Mais ça va même plus loin, c'est-à-dire que si on peut mesurer, vous voyez, les quantités de connaissances, d'expertise, si on peut mesurer le temps, ça, on peut bien le faire, les secondes, etc. Donc, on peut dire comment le système a appris. Non seulement, on peut dire qu'il a appris ou qu'il ne l'a pas fait, mais on peut dire combien. Donc ça, c'est une grande contribution.
Jean-Daniel de Simo, en conclusion, quelle est la position de la Suisse dans la recherche robotique, dans sa participation à la RoboCop, puisque c'est une compétition internationale finalement?
En termes de résultats dans le domaine en question, on est très bien positionné. Je dirais qu'il y a beaucoup de travaux en Suisse, déjà au niveau de la microtechnique, robotique, industrielle ou mobile. Donc au niveau suisse, il y a des contributions très importantes, ABB, Stöbli. Et maintenant, dans le cas particulier de RoboCop at Home, on est effectivement très content des résultats qu'on a eu cette année. En étant les deuxièmes après la partie des tests techniques et quatrième au niveau du résultat final.
Ça, c'était à la RoboCup d'Atlanta cette année.
Voilà.
Hein.
Voilà. Mais pour nous, c'est pas tellement disons, d'avoir une bonne place là qui est l'important. Ce qui est important, c'est de se situer par rapport à la métrique que représentent les tests qui ont été définis par la communauté des spécialistes au niveau mondial. Donc, si ces tests peuvent y contribuer, progresser dans ce domaine, on est content, on travaille pour le progrès, donc on se dit qu'on est sur la bonne voie d'être utile à la société ces prochaines années.
Hello, do you want to start?
Merci à Jean-Daniel de Simo. Lucille,
oui.
C'est quand les prochains RoboCup?
La prochaine RoboCup, ce sera évidemment en 2008 et ce sera en Chine.
Ah, en même temps que les Olympiades?
Un petit peu avant, mais la même année que les Olympiades. Mais enfin là, à la RoboCup, il n'y a pas trop de problèmes de dopage, je crois.
Impatience. Lucille Solari. Pour podcaster les chroniques et dossiers d'impatience,